Tous. Ce matin, je souhaiterais partager avec vous un récit qui se trouve dans le premier livre de la Bible. Comme ça, ce ne sera pas difficile à trouver, d'autant plus que ça s'écrit sur le mur dans mon dos, je le sais bien. Mais pour ceux qui ont leur Bible, c'est plus facile de trouver Genèse que le livre d'Agé, n'est-ce pas, hein? Très bien, alors je vous propose une lecture dans un petit récit qui se trouve au chapitre 11 et que nous connaissons tous. Ce récit, c'est le récit de la construction de la tour de Babel, au chapitre 11. Or, toute la terre parlait un même langage avec les mêmes mots. Partis de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas disséminés à la surface de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voilà un seul peuple. » Ils parlent tous un même langage et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, il n'y aurait plus d'obstacle à ce qu'ils auraient décidé de faire. Allons, descendons et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus le langage les uns des autres. L'Éternel les dissémina loin de là sur toute la terre, la surface de la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dissémina sur toute la surface de la terre. Je suppose que quand j'ai commencé par dire qu'on allait parler de la tour de Babel dans la Genèse, il y a certains qui ont pu se dire, tiens, encore une belle histoire, étrange, mais une histoire que nous connaissons. Quand je suis arrivé ici en Bretagne, il y a plus de 30 ans, le pasteur qui était ici, Patrick Richard, que vous avez vu peut-être pendant cet été, avait un puzzle accroché dans son salon qui représentait la tour de Babel, ou la construction de la tour de Babel. Je ne sais pas si ce n'est pas Bruegel l'Ancien qui a dû peindre cette toile. Et j'étais étonné à la fois par la patience qu'il avait fallu à Patrick et son épouse le soir pour faire le puzzle, je me disais, c'est presque une œuvre de tour de Babel, 5000 pièces. Et en même temps, cette image de Bruegel l'Ancien, cette peinture de Bruegel l'Ancien, m'interpellait toujours. Je me disais, c'est une belle histoire à raconter aux enfants, le soir, pour parler du Seigneur, de la pensée que l'homme est toujours avec cette tendance d'être réfractaire à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu, et puis ce récit de l'apparition des langues qui seraient dans ce texte la résultante d'une désobéissance ou de volonté de Dieu de séparer les hommes dans un projet commun. Alors ce matin, quand j'ai vu certains arriver, je me suis dit, tiens, des langues nouvelles qui sont là, hein ? Nous avons dans cette église le privilège, la richesse d'avoir des cultures différentes. Il y en a qui sont du côté de l'Asie, on a des anglophones, on a peut-être des bretonnons. Je ne sais pas s'il y a des bretonnons ici. Même pas. Eh bien, Juliette. Alors tout le monde se penche vers Juliette en se disant un petit peu de ce côté-là. Quelques francophones, on a des personnes qui savent parler arabe, me semble-t-il. Il y a une russe. Bonjour. Vous voyez ? Tout ça à cause de la tour de Babel. Ce récit n'est pas simplement un récit, je dirais, fait pour raconter aux enfants une histoire au sujet de Dieu. C'est un récit qui contient en lui-même des principes spirituels, des vérités spirituelles. Lorsque nous lisons ce texte commence par « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots ». Et la question qui se pose quand nous lisons ce texte, c'est de se dire, mais en fait, quel est le péché des hommes à ce moment-là? Quel est le péché des hommes? Alors la première pensée qui nous vient à l'esprit, c'est que le jugement de Dieu serait lié à l'orgueil des hommes qui décident de construire, pas seulement une tour, mais une ville. Et c'est important de le lire aussi comme cela. Ce n'est pas simplement la tour qui est l'objet peut-être du jugement de Dieu, parce que je pense que le jugement de Dieu porte sur autre chose que la tour et la ville. Mais en tout cas, il y a dans cette construction de la ville et de la tour les prémices de quelque chose qui est dans le cœur de l'homme. Est-ce que Dieu serait vexé parce que les hommes construisent une ville et puis surtout une tour qui serait une volonté d'afficher « on est capable de toucher au ciel ». En quelque sorte retentirait, je le répéterai, cette parole de l'adversaire dans le jardin d'Éden qui dit ceci: si vous mangez de ce fruit, vous serez comme des dieux. Est-ce qu'il n'y a pas dans le désir de construire cette tour la manifestation des hommes de se dire ben, nous sommes à l'égal de Dieu, capables de toucher au ciel, d'aller très très haut, de s'élever? Puis en même temps, quand je pense à cette interprétation, je me dis, mais est-ce que Dieu, créateur du ciel et de la terre, peut être vexé ou inquiet du pouvoir des hommes parce qu'ils construisent une tour? Toute proportion gardée, j'ai envie de dire que si Dieu est atteint dans sa toute-puissance, par l'homme qui veut construire une tour, aussi grande soit-elle, c'est un peu comme si moi, regardant ma petite fille Erin de 2 ans et demi, la voyant empiler des cubes, je me disais, oh, elle commence à être un peu orgueilleuse, cette petite. Bâtir quelque chose qui s'élève. Oh, vous allez me dire, non, l'image n'est pas adaptée. Ah bon, vous croyez ? Comment Dieu pourrait-il être inquiet que des hommes élèvent une tour alors qu'il est ce Dieu créateur qui a construit le ciel et la terre? Pour mémoire, la plus haute tour du monde à l'heure actuelle est la tour Burj Khalifa dans les Émirats Arabes Unis à Dubaï. Sa hauteur qui a été finalisé en 2009, est de 828 mètres. 828 mètres. C'est énorme. 7500 ouvriers pour bâtir cette tour. Je ne sais pas quelle était la hauteur de la tour de Babel. Ça ne nous est pas dit. Autant on a des éléments pour calculer l'arche de Noé, mais la tour de Babel, on ne sait même pas. C'était 2 étages, 3 étages, 10 étages au moment où ça s'est arrêté. Aujourd'hui, Burj Khalifa, à Dubaï, 800 mètres de hauteur, 828 mètres, 7500 ouvriers pour la construire pendant 6 ans, jusqu'en 2010. Est-ce que vous vous rappelez quel est le plus haut sommet de cette terre? L'Everest, 8848 mètres. La Tour des Hommes, 828 mètres. L'Everest, 8848 mètres. Le Job disait, si l'homme voulait contester avec Dieu, sur 1000 choses, il ne pourrait répondre à une seule. À lui, Dieu, la sagesse et la toute-puissance. Qui lui résisterait impunément? Il transporte soudain les montagnes, il les renverse dans sa colère, il secoue la terre sur sa base, et ses colonnes sont ébranlées. Il commande au soleil, et le soleil ne paraît pas. Il met un sceau sur les étoiles. Seul, il étend les cieux. Il marche sur les hauteurs de la mer. Il a créé la grande ours, l'Orion, et les Pléiades, et les étoiles des régions australes. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Voilà la vision que Job a de Dieu. Comment pourrait-il y avoir de la part de Dieu une crainte parce que des hommes élèvent une tour? Il y a une disproportion entre ce que l'homme est capable de faire et ce que Dieu est et ce qu'il a accompli. Quand l'homme pose son pied sur la lune, vous savez ce qu'a dit Neil Armstrong en 68, un petit pas pour l'homme, un grand pour l'humanité. Waouh ! C'était, moi je me rappelle en noir et blanc, bon les plus jeunes ne s'en rappellent pas, ils sont nés à l'époque de la couleur. Souriez pas, vous verrez que bientôt on verra la télévision en hologramme et vous direz, mais avant moi j'ai connu la télévision en couleur. Donc nous c'était en noir et blanc. Et je me rappelle avoir vu, j'avais 11 ans, sur la télévision, cet homme qui marchait sur la lune. Et cette parole prononcée, un petit pas pour l'homme, un grand point. Et c'est vrai qu'on était là émerveillés. Nous avions posé un pied sur le satellite de la Terre, la lune. Je vois que ça impressionne personne aujourd'hui. Personne. Et cette semaine, la NASA a annoncé qu'on venait de découvrir, grâce à l'observatoire européen Austral, une nouvelle planète qui vient s'ajouter à la liste des candidates à la recherche des signes de vie dans le système solaire. Et cette petite planète qui s'appelle Ross 128b, alors Ross parce qu'en fait la NASA avait balayé le ciel et c'est des amateurs qui tout à coup disent « attendez, il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas vu ». Et c'est un certain Ross qui aurait signalé à la NASA qu'il y avait une nouvelle planète au fin fond de l'univers, une étoile dans la constellation de la Vierge, qui est située seulement à 11 années-lumière du système solaire, c'est-à-dire dans la galaxie d'à côté. C'est une voisine, c'est le voisin d'à côté. Sauf que ce voisin d'à côté est à 11 années-lumière. Il faut savoir que une année-lumière, ça vaut 9460 milliards de kilomètres. 9160 milliards de kilomètres. La Lune est seulement à 384 467 kilomètres. Ça veut dire que nous sommes à une distance faramineuse de cette fameuse planète. Alors qu'on se disait, ouais, qu'est-ce qu'on est bon ! On est sur la Lune. Et tout à coup, on découvre une planète qui est au fin fond du cosmos. Et vous savez quoi? C'est Dieu qui a construit cela, qui a bâti cet univers. Nos yeux n'arrivent même pas à percevoir le fond du fond de la création céleste que Dieu a accomplie. Quand Job dit « Il transporte les montagnes, il les renverse dans sa colère », comment Dieu pourrait-il être énervé parce que nous construisons une petite tour du côté de Babel ? Alors si ce n'est pas la tour qui énerve Dieu ou qui fait peser le jugement de Dieu sur les hommes, est-ce que ce serait la ville ? Certes, la tour est certainement une manifestation de l'orgueil de l'homme qui cherche à s'élever au-delà de sa nature, mais s'élever d'une manière différenciée. Mais est-ce que c'est la ville ? Alors, il y a certainement dans l'introduction du chapitre 11 une indication importante qu'on peut lier à cette volonté de construire une ville. Il est dit, au chapitre 1, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et en fait, si on traduit de manière peut-être plus appropriée, il y avait une même langue et une même parole, c'est-à-dire tout le monde était d'accord. Une même parole. Sinon, on comprend mal pourquoi l'auteur dit à la fois une même langue et les mêmes mots. C'est bien évident, quand on a la même langue, on a les mêmes mots. Mais dans le sens, c'est plutôt une parole unique, une parole. Ils avaient une parole, ils étaient tous d'accord. On se dit, enfin, moi en tant que directeur d'une structure, qu'est-ce que je suis bien quand il n'y a qu'une seule parole, et si possible la mienne, et que tout le monde est d'accord avec moi. Et dans une église, qu'est-ce que c'est bien quand il n'y a qu'une seule parole et que c'est celle du pasteur. On est bien d'accord, Laurent ? Hein ? C'était cela, c'est comme cela qu'est dit là, le premier verset du chapitre 11. Il y avait une seule parole, tout le monde était du même avis. Et ils se disent qu'ils veulent construire une ville. Alors, quelle est l'objet de la colère de Dieu. Moi, première interprétation. Deuxième verset, comme ils étaient partis de l'Orient, ils ont été condamnés. Moi, je comprends. Quitter l'Orient, ça viendrait à l'idée de personne. Hein? Bon, je le dis avec sourire, c'est pas cela. Et ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéa, ils y habitèrent. C'est-à-dire qu'ils ont quitté l'Orient, c'est-à-dire là où le soleil se lève, là où la lumière arrive, pour aller au pays de Shinéa. On s'aperçoit que le pays de Shinéa, c'est un pays où finalement ils ont de la terre, mais ils n'ont pas de roc, en tout cas de pierre, pour pouvoir construire leur tour. Ils sont obligés de fabriquer des briques. Est-ce qu'ils y ont gagné? Certains traduisent pays de Shinéa notamment par le pays de la cassure ou de la brisure. Je ne sais pas si on peut adopter cette traduction-là, mais en tout cas, ils s'en vont de l'Orient pour quitter la lumière et rentrer dans autre chose. Et ils décident de construire d'abord une ville. Ils disent « Allons, bâtissons-nous une ville !» C'est d'abord le premier sujet, ce n'est pas la tour, c'est une ville. Alors j'ai envie de dire, une ville, c'est quoi? Une ville, c'est en France, par exemple, pour être une ville, il faut un certain nombre d'habitants, pour que l'État vous reconnaisse comme ville. Est-ce que vous savez combien il faut d'habitants pour avoir le nom d'une ville? Vous avez une idée? 8 000? Oh non. Ah, j'ai entendu une bonne réponse. 2 000, voilà. Merci Agnès, 2 000. Au Japon, il faut 30 000 habitants pour qu'on dise c'est une ville. En dessous, c'est un hameau. Ça vous donne une idée. Hein? Ils décident de construire une ville. Il y a un sociologue en 1900 qui parle de l'urbanisation et du fait de créer des villes. Et il dit ceci, la création d'une ville, c'est une urbanisation galopante et qui décide quelque part de vivre selon des règles et des valeurs impersonnelles. C'est-à-dire que la caractéristique de la ville, c'est qu'on est dans un lieu, un espace, on n'est plus dans une individualité quant à sa qualité de vie, ses décisions, ses choix. On dépend de l'ensemble et des règles du collectif. C'est parfois très ennuyeux de dépendre du collectif. La ville, c'est dire, il n'y a plus d'individu, il y a un collectif. L'individu, entre guillemets, disparaît. J'ai taillé mes rosiers il y a 2 ans. Je l'ai mis pile poil dans la bonne poubelle, la verte. Et quand je suis revenu le lendemain de la tournée des camions qui enlèvent les ordures ménagères, j'ai retrouvé ma poubelle pleine. Oh, je vais voir Francine, je lui ai dit, mais écoute, comment ça se fait qu'ils n'ont pas pris ma poubelle? Et elle a regardé, elle m'a dit, c'est normal, tu as mis tes rosiers, tes coupes de rosiers. Je dis, c'est du verre. C'est des détritus qui vont être recyclés, etc. On est bien. Il me dit, non, tous les détritus maintenant doivent être dans des sachets plastiques. Et les tontes, les coupures d'arbres, de choses comme ça, ils prennent pas, ils soulèvent, ils regardent, ah non, c'est pas dans les normes, on les laisse ici. Je me suis dit, mais ça devient fou d'être soumis au collectif. La ville, c'est l'acceptation de disparaître au niveau personnel et individuel et d'accepter la règle collective. Or, bien sûr, c'est pas le plus ennuyeux que d'avoir à mettre des sachets biodégradables avec, etc. Mais c'est, comme le disent les sociologues aujourd'hui, l'espace de vie où l'individu n'est plus au centre, c'est le collectif. Je ne peux pas garer ma voiture n'importe où. Je suppose que ce matin, vous êtes venu à l'église et que vous êtes rentré soit sur le parking, puis quand certains ont vu le parking complet, ils se sont dit « Oh, va falloir que je m'a... » Et vous n'êtes pas garé au milieu de la rue. Vous êtes allé trouver une place, etc. Hein, je parle pour les retardataires qui se sont garés. Vous avez trouvé une place, vous n'avez pas fait n'importe quoi. Celui qui a fondé Babel, selon l'Écriture, on le trouve dans le chapitre 10, verset 8, c'est un descendant de Cham. C'est pas étonnant d'ailleurs que ce soit un descendant de Cham. Cham engendra Cush, 10, verset 8, qui engendra aussi Nimrod. Vous avez déjà entendu parler de ce Nimrod, qui est quasiment une représentation de quelqu'un qui fait le choix du collectif en dehors de Dieu. Alors, il est présenté, il dit, il commença à être puissant sur la terre, il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. Il n'est pas dit qu'il était agréable à Dieu et dans une relation. Non, il était un vaillant chasseur, c'est-à-dire qu'il a, il a axé tout son, toute sa vie sur le fait de développer sa puissance personnelle, humaine, et il a bâti une ville qui s'appelait Babel. Bâtir une ville, c'est la perte de l'individualité, mettre toutes ses forces pour la collectivité et non l'individu. Ils veulent construire une ville et une tour pour tous. La cité radieuse. Vous ne connaissez pas la cité radieuse? Le Corbusier, c'est du côté de Marseille, je crois. Arrosé aussi, voilà. Cité radieuse, c'est le fait de rêver que un bâtiment unique qui rassemblerait tout le monde. On serait tellement bien là entre nous, avec des crèches, des magasins à l'intérieur, etc. C'était la pensée de Le Corbusier. Le résultat, c'est que sont nées les cités HLM, que j'y ai vécu pendant une dizaine d'années, et que c'était tout sauf le rêve de l'épanouissement. Le collectif. Le rassemblement d'exclus, de pauvres, d'hommes et des femmes de différentes cultures. On parle de mixité sociale, là c'était de la mixité sociale imposée, avec de la violence, du vol, et bien d'autres choses. La ville, ce n'est pas une cité radieuse, si elle ne part pas de l'individu, de celui qui est là. Quel est ton besoin, plutôt que de penser que tout se fait et se doit être collectif. Je crois que la diversité, la multiplicité dans la société, c'est la pensée de Dieu. L'unicité, elle ne s'attache qu'à Dieu. Qu'à Dieu. L'homme est multiple, différent. Quand je regarde vos visages, je vois des visages qui portent le poids des ans, d'autres qui sont plus jeunes, certains qui sont d'une culture, d'autres de l'autre. Et c'est cette multiplicité que l'Église est appelée à vivre sous le regard de Dieu. Ils avaient tous un même langage, les mêmes mots. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient une langue unique, mais qu'ils disaient tous la même chose. Ah, quand on dit tous la même chose, un seul discours, une seule pensée pour tous. On est dans un monde de clones. Et c'est ce qu'on veut dans l'Église, pas une tête qui dépasse. Hein ? D'accord ? Tous pareils. On pense pareil. C'est pour ça que je suis très favorable à cette notion depuis une quinzaine d'années de leader dans l'Église. C'est très bien les leaders dans l'Église. Je suis pour. Pour que tout le monde pense comme moi. J'ai entendu dans les conseils nationaux, le leadership c'est quelque chose de fabuleux. Une équipe pastorale idéale, c'est une équipe pastorale qui suit la vision du leader. Ça, c'est une équipe pastorale. Je voudrais le rappeler à ceux qui en font partie dans cette église. Soyez favorables à ce leadership. Tous comme moi. C'est ça, ils avaient une même parole. Or, la pensée de Dieu, c'est pas cela. Quel est le danger? Dieu le dit, il n'y a plus d'obstacle à ce qu'ils auraient décidé de faire. Et c'est cela qui va le décider à les en empêcher. Avoir une pensée unique qui n'est pas celle de Dieu, recherchée auprès de Dieu, mais qui est, qu'est-ce qui est bon pour nous? Ben moi je vais vous le dire. Avoir une pensée unique. Alors que la pensée de Dieu pour l'Église et pour ce monde, c'est de faire que chaque individu avec ses richesses, avec sa personnalité. Oh non, 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 moi je veux que tout le monde ait la même personnalité que moi, en tout cas soit dans la soumission. C'est ça? Ce n'est pas la pensée de Dieu. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils avaient projeté. Ça veut dire que dans ce passage de la Genèse, si on pense que c'est l'orgueil de l'homme qui est à la base du jugement de Dieu, si on pense que c'est la construction de la ville, le fait que tout le monde ait une pensée unique, que Dieu se dise « Oh là là, c'est beaucoup trop dangereux », on peut le dire, et certainement que c'est une part de vérité dans la, j'ai envie de dire, dans les principes spirituels qui conduisent à la relation de Dieu avec les hommes et les hommes avec Dieu. Mais il y a autre chose. Quand il dit qu'il voit la ville, qu'il voit la tour, il dit « Oh là, on va les arrêter maintenant pour qu'ils ne fassent pas tout ce qu'ils ont projeté. Mais alors ce tout, c'est quoi? Et si on relit attentivement le texte, on s'aperçoit que le plan et le projet, et c'est toujours très intéressant d'aller au bout de la lecture pour comprendre un texte. La malédiction, en tout cas le fait que Dieu vienne et intervienne au niveau des hommes, c'est à la fois parce que le projet, c'est de dire « bâtissons-nous une ville », c'est-à-dire un endroit où le collectif, tous ensemble, on va faire, et construisons une tour qui touche au ciel pour montrer qui on est. Et le qui on est apparaît à la fin de ce verset 4. Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom. Et en fait, le projet ou la finalité du projet des hommes, ce n'est pas simplement la ville et la tour, c'est de se faire un nom. Ah, ça signifie quoi? Ça signifie que Dieu ne pense pas, c'est pas la crainte de Dieu de dire, voilà, les hommes sont capables de tout, et quasiment de m'égaler ou de remettre en cause ce que je suis. Non, c'est pas cela. On sait bien que notre tour, elle a 800 mètres à Dubaï, mais qu'on va avoir du mal à atteindre les 8000 mètres. On sait bien qu'on va avoir du mal à aller voir la nouvelle planète Ross 123 au fin fond de la galaxie, etc. On sait bien qu'on a des limites. Mais malgré tout, il y a cette volonté d'avoir une seule parole et d'essayer de se faire un nom. Avoir une même volonté. Vous savez que le Talmud dit que pour les décisions importantes, notamment pour un Sanhédrin, et parmi les décisions importantes, on cite notamment la peine capitale. Pour appliquer la peine capitale dans le Talmud, il est dit qu'il doit y avoir un vote qui est fait par le Sanhédrin. Et quand il y a unanimité, qu'est-ce qui se passe? Le vote est annulé. C'est le Talmud qui dit ça. Quand il y a un jugement sur quelque chose d'important, s'il y a unanimité, on annule le vote. Alors que nous, on se dirait, chouette, tout le monde est d'accord. J'imagine Monsieur Philippe à Matignon qui se dit, waouh, tous les syndicats sont unanimes. Formidable. Jamais lui viendrait l'idée de dire après, on va annuler, on va recommencer, ils sont unanimes, ça ne va pas. Le Talmud dit ça. Pourquoi? Parce qu'il part du principe que s'il y a une unanimité, ça peut laisser supposer qu'il y a eu, un achat, ou en tout cas le tribunal a été acheté, ou alors qu'on n'a pas assez bien étudié la question, et que si tout le monde est d'accord, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a de l'importance à ce qu'il y ait des avis différents qui se confrontent. Et Dieu y est favorable. Que nos diversités puissent se rassembler, se conjuguer. Dieu, vu qu'il y ait aussi des opinions différentes, il n'est pas contre le fait d'apporter un éclairage. On en a même besoin. Dieu ne souhaite pas qu'il y ait qu'un seul avis, un peuple unanime, une seule tête. Dans Corinthiens, l'apôtre Paul dira, il y a diversité de dons, mais le même esprit. L'unicité, elle n'est que du côté de Dieu. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous. Au même Corinthiens, il dira à un autre, le don d'opérer des miracles a été donné, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits. La diversité est voulue par Dieu pour que cette diversité reflète l'entièreté de l'unicité de Dieu. Est-ce que je peux, à moi tout seul, Jean-Marc Wanto, refléter toute la plénitude de Dieu? Si je le pense, lapidez-moi. Attendez un moment, mais vérifiez avant quand même. Car comme le cœur est un et a plusieurs membres, comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Cette diversité-là plaît à Dieu. Et il fait avec cette diversité. Lorsque le chapitre 11 s'ouvre sur cette volonté des hommes de bâtir une ville, de bâtir une tour, et ensuite de se faire un nom, j'aimerais qu'on se rappelle que juste avant ce chapitre 11, il y a le signe de l'alliance de Dieu avec les hommes après le déluge. Et ce signe de l'alliance, vous savez ce que c'est ? C'est l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, il dit à Noé, Dieu, eh bien, maintenant je fais alliance. Ma colère ne s'abattra pas sur les hommes à nouveau de cette manière-là. Et l'arc-en-ciel, c'est quoi ? L'arc-en-ciel, c'est une diversité de couleurs. Un signe qui rassemble en lui-même toutes les couleurs les unes à côté des autres. C'est un signe magnifique, n'est-ce pas ? Il y a 7 couleurs. Je ne me rappelle plus du nom de toutes ces couleurs, mais il y a 7 couleurs qui ont été listées. Alors, elles n'ont pas été listées par n'importe qui, c'est Newton qui a décidé qu'il y en avait 7. Quand on regarde l'arc-en-ciel, en fait, on s'aperçoit qu'il y a des dégradés entre les couleurs. Donc il n'y a pas 7 couleurs, vous n'avez pas une bande d'une couleur, une bande de l'autre, non. Il y a tout un dégradé, mais lui a décidé qu'il y avait 7 couleurs et c'est passé un petit peu dans la tradition. Toujours est-il qu'il y a une diversité de couleurs dans le signe de l'Alliance. Comme il y a une diversité de couleurs, et là je parle même de nos couleurs de peau, mais de couleurs de culture, couleurs de caractère, de couleurs de service dans l'Église, il y a une diversité que Dieu veut voir présente dans l'Église. Y compris dans l'exercice des dons spirituels. Dieu veut qu'il y ait diversité. C'est bien qu'il y ait des paroles prophétiques. Mais Dieu veut qu'il y ait aussi des diversités. Pas seulement au niveau des personnes, mais aussi des dons. Il s'agit qu'il y ait des personnes qui puissent se dire, mais est-ce que mon service au niveau des dons charismatiques, c'est prier pour les malades, apporter des paroles de consolation, de foi ? Est-ce qu'il y a une diversité de dons ? Moi, j'affirme que ici, non. Nous sentons très à l'aise avec le parler en langue, très à l'aise avec la parole prophétique, mais qu'en est-il des autres dons que Dieu veut répandre dans son corps, dans son Église ? Recherchez les dons. Recherchons les dons. Plaçons-nous devant Dieu. Et s'il y a une conviction par rapport à un don spécifique, autre que la parole prophétique ou parler en langue, eh bien, n'ayons pas peur. Nous ne serons pas jugés d'être orgueilleux parce que nous voulons nous différencier, nous apporterons au corps de Christ, par des dons spirituels, les richesses de Dieu. Alléluia ! Alléluia ! Il n'y a pas d'église spécialiste. Moi, quand j'étais jeune, j'avais un pasteur qui tournait dans les églises, qui avait un don de guérison qui était indéniable. J'ai vu des choses extraordinaires. Mais il rallongeait que les jambes. Ou il redressait la colonne. En clair, c'était plutôt ça. Et il le faisait avec une telle foi que on regardait et puis on voyait effectivement la colonne vertébrale des personnes qui avaient des gros, gros problèmes et puis les jambes se remettre en place. Et quand il venait, je disais, tiens, on va rallonger les jambes cette semaine. Mais je pense que Dieu peut guérir et utiliser quelqu'un pour guérir dans tous les domaines, en tout cas pour apporter la guérison de Dieu. Est-ce que nous recherchons les dons de Dieu dans nos vies ? Dans l'Église, pour l'Église. Prions pour cela, frères et sœurs. Prions pour cela. Je suis certain qu'il y a des personnes auxquelles Dieu veut confier des dons qui sont différents et qui vont enrichir par leur diversité. Il quitte l'Orient. L'Orient, en hébreu, c'est aussi le terme parle du commencement des choses d'autrefois. Les commencements, ils veulent se séparer des commencements. Les commencements, c'est ennuyeux, on veut commencer autre chose. Ça, c'est le propre de toutes les nouvelles générations. On ne veut pas faire comme papa, hein, ni comme maman. On veut faire quelque chose de nouveau. Vous voyez, mais il y a dans les commencements, quand ils viennent et sont posés par Dieu, des principes qui sont importants. Ne rejetons pas les commencements que Dieu a posés. Dans ce texte, il est dit que, alors qu'ils sont dans ce projet, faisons une ville, faisons une tour, faisons-nous un nom. C'est les trois éléments de ce projet. Une ville, une tour, un nom. Il est dit qu'à ce moment-là, Dieu descendit pour voir la ville et la tour. Dieu descendit. Dans ce texte-là, il y a deux fois la mention que Dieu descend. Dieu descend. À deux reprises. Est-ce que nous ne pouvons pas lire ce texte, ce récit, en nous disant que Il y a un lien à mettre avec un Dieu qui descend au milieu des hommes, qui font leurs choix, qui construisent leurs projets sans Dieu. L'histoire de la tour, c'est ça. Construisons quelque chose qui est en dehors de ce commencement, cette relation que nous avions avec Dieu. Construisons quelque chose en dehors de Dieu. L'Éternel descendit. Que dit l'évangile de Jean ? Au commencement était la parole, cette parole qui dit la lumière soit, cette parole créatrice. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et cette parole est venue au milieu de nous. Dieu est descendu, comme à Babel. Dieu est descendu pour voir quels étaient nos projets, quels étaient nos choix, et de dire, moi j'ai quelque chose à vous montrer d'autre, en termes de projet de vie, d'espérance. Est-ce que nous avons vu Dieu descendre au milieu de notre vie, dans nos projets ? Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils avaient projeté. Donc ça ne suffit pas, ils ont construit une ville, ils sont en train de construire une... Il y a autre chose. Oui, on veut se faire un nom. Faisons-nous un nom. L'objectif final, c'est celui-là. Et la réaction, pour moi, c'est une interprétation du texte, mais je sais que d'autres l'ont fait. L'objectif des hommes à Babel, dans le pays de Shinéar, c'est de se faire un nom qui soit leur nom choisi. Oh, le nom, la question du nom dans le peuple d'Israël, dans cette région sémitique, c'est quelque chose d'essentiel. On ne porte pas un nom par hasard, il est porteur de sens. Si on reprend dans la Genèse, la création de l'homme, c'est Dieu qui nomme l'homme et la femme. Mais il demande à l'homme et à la femme de nommer les animaux. Et cette organisation, j'ai envie de dire, cet ordre de la création repose sur le principe, c'est celui qui nomme qui a l'autorité. Qu'a dit Dieu à l'homme ? Eh bien, appelle les animaux par leur nom, et puis domine, gère, sois responsable. Parce que tu as nommé les animaux, tu en es responsable. Mais ce n'est pas l'homme qui choisit son nom, c'est Dieu qui le nomme. Ça veut dire que la question du nom est aussi une question de soumission. Si quelqu'un me nomme, je lui suis soumis. Et je pense que quand nos pères, puisque ce sont les pères en France, vont à la mairie après la naissance de l'enfant, ils disent ceci, non seulement j'ai autorité sur lui, je lui donne son nom, mais il y a une relation de soumission entre l'enfant et le père. Je suis celui qui a autorité. Et si je regarde les pères qui sont là, je suppose que c'est ce que vous avez vécu. Moi, ça a été un moment fort pour moi d'aller à la mairie pendant que ma femme se reposait à la clinique, après la naissance. Et moi, j'ai dû faire tout le boulot, aller à la mairie, déclarer mon enfant. Mais, la fierté. Je ne vais pas pour vous, je ne vais pas pour toi, Renan, ou pour les autres. Mais la fierté à l'état civil d'arriver et dire, ben voilà, j'ai un enfant, déjà de dire ça, je viens déclarer mon enfant. Il y a quelque chose de fort. Mais aussi ce sentiment, qu'en le déclarant, en donnant son... Alors vous l'avez appelé comment ? Alors je veux dire, on appelle un petit peu les enfants n'importe comment, hein, même avec un nom de voiture. Mais quand on donne son nom, on se dit, voilà, c'est mon enfant. Et quand je le déclare, non seulement je dis, je reconnais ma responsabilité vis-à-vis de lui. C'est ça. Je le dis à l'état civil, j'en suis responsable, c'est mon enfant. Mais je vais avoir aussi autorité sur sa vie, pour le conduire, l'accompagner, etc. Et il y a, dans cette question d'autorité, sous-jacent cette notion aussi de soumission. Mon enfant, il va devoir m'écouter pour que je l'élève. Moi, j'aime beaucoup ce mot, élever son enfant. Pas seulement parce que j'ai dû, à la première naissance, lire tout Laurence Pernoud avec « J'élève mon enfant hein, », mais parce que élever, c'est faire grandir. C'est amener à une... Et pour moi, l'élever, c'était l'élever jusqu'à Dieu. C'est ce que j'ai dit à mon fils le jour de son mariage. J'ai dit, mais quand tu es né, ma peur, ma crainte, mais ma responsabilité, c'était t'élever jusqu'à ce que tu rencontres Dieu. C'est ça le rôle du Père. Quand je lui ai donné son nom, c'était ce à quoi je m'engageais. Ah. Faisons-nous un nom. Se faire un nom, se construire une identité en dehors de Dieu. C'était cela qui a fait réagir dans ce plan en trois parties, une ville, une tour, un nom. C'est ce qui a fait réagir Dieu en disant, non, je ne veux pas que cette relation entre moi et l'homme soit rompue. Alors je descends. Et c'est pour cela que dans l'évangile, on nous présente un Dieu qui descend tout à nouveau. Le parallèle entre la tour de Babel, un Dieu qui descend et qui, je dirais, va faire en sorte que les langues soient différentes et empêche l'homme quelque part de se faire un nom sans lui. Moi, je crois profondément que c'est cela qui est cause de la réaction de Dieu. En donnant son nom à l'homme, Dieu le positionne en tant que créature. Combien d'hommes dans ce monde qui sont loin de Dieu ne reconnaissent pas qu'elles sont créatures de Dieu aujourd'hui. Et faire de l'évangélisation, est-ce que c'est autre chose que de ramener l'homme et la femme loin de Dieu à reconnaître qu'ils sont voulus, pensés par Dieu, nés de Dieu? Abraham avait un nom, Abraham, ou Avram. Et Dieu lui a donné un nouveau nom, père d'un grand peuple. Quand Dieu s'adresse à Abraham, il lui dit, bah écoute, je vais te faire, tu seras à l'origine d'un grand peuple, mais tu seras aussi celui auquel je donnerai un nouveau nom. Son père, une partie de sa famille, sont restés à Haran. Lui, il a quitté Haran, le monde ancien, et il a reçu un nouveau nom. Je crois que la nouvelle naissance d'Abraham commence avec son nom nouveau. Est-ce qu'il n'y a pas dans l'Apocalypse cette pensée, cette parole là aussi, je vous donnerai un nom nouveau? Moi, je ne sais pas quel est mon nom nouveau. Je viens de découvrir par le prêtre catholique et vietnamien de Kevin pourquoi je m'appelais Wang To. Je n'avais rien compris à ce qui s'était passé. Sur mes papiers à la déclaration, quand mon père m'a déclaré, il m'a déclaré Wang. Et puis, quand je me suis marié, panique à bord, tous mes papiers étaient au nom de Wang To. Et ça ne correspondait pas à mon acte de déclaration d'état civil. Et en fait, j'ai cru qu'il avait été tellement ébloui par ma naissance qu'il s'était trompé, il était perturbé au moment de la déclaration à la mairie. Et en fait, le prêtre m'a dit, non, ton vrai nom, c'est Wang, c'est pas Wang To. Et il m'a expliqué ce que ça voulait dire et pourquoi mon nom était Wang. Donc j'ai demandé pardon à mon père de tout ce que j'avais pensé de mal de lui en faisant cette erreur. Quelle est mon identité? En quoi mon identité aujourd'hui est fondée en Dieu? Est-ce que ce que je suis, pas simplement le nom, mais mon identité profonde, ce que je suis, je veux que cela prenne ses racines dans la pensée de Dieu, dans les plans de Dieu, dans la volonté de Dieu, ou bien est-ce que je me construis ma ville, ma tour, pour vivre en dehors de lui? L'évangélisation, c'est cela, c'est ramener le cœur des enfants, des fils et des filles qui sont loin dans leur ville, dans leur tour, qui veulent grandir en dehors de Dieu, et de les ramener au sein du cœur de Dieu, du Père. C'est cela. Qu'ils se fassent un nom, une identité, qui trouve ses racines en Dieu. Je ne sais plus si c'était... ce pasteur pentecôtiste Thomas du XXe siècle. Non. Thomas Roberts. Thomas Roberts qui citait cette pensée-là. Thomas Roberts qui était venu à Colding et qui disait à quelqu'un, mais c'est quoi ton projet de vie? Et puis le jeune qui était là au collège biblique dit, moi mon projet de vie c'est de me former. Oui, et puis c'est quoi après? Après ma formation, c'est de devenir pasteur, éventuellement, de servir. Et puis après. Puis l'autre disait, puis à un moment donné, Thomas Robin disait, et après, alors c'est quoi? Et puis l'autre dit, après, j'ai pas trop d'idées. Et en fait, il lui dit, mais si tu n'inclus pas l'éternité de Dieu, parce que c'est là le plan de Dieu pour toi, ta vie, c'est de t'inclure dans son éternité, dans sa pensée, alors... tes plans sont trop petits. quelles sont nos identités? Sur quoi voulons-nous construire? Être? Quel nom devons-nous porter? Quelle identité? Ils firent une ville, une tour, et ils dirent, faisons-nous un nom. Et je terminerai par cette pensée que on ne peut pas lire, me semble-t-il, le chapitre 11 de la Genèse en lire le chapitre 12, c'est souvent ce que disent les exégètes, en disant, eh bien, ensuite, au chapitre 12, on a l'apparition d'Abraham, ou d'Abraham, qui a un autre nom et qui commence à construire autre chose que la tour de Babel, une ville loin de Dieu, qui va construire et participer au plan de Dieu. Mais je crois qu'on ne peut pas lire non plus le chapitre 11 de la Genèse sans penser au prologue d'un Dieu qui descend pour donner aux hommes une autre perspective de ce qui est à construire, d'une nouvelle naissance en Christ qui est possible. Et je crois qu'on ne peut pas non plus lire ce chapitre 11 sans penser à acte 2, où il dit « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. » Comme si, je dirais que la crucifixion et la résurrection de Christ étaient quelque part une révision de ce qui s'est passé au niveau du jugement de la tour de Babel. Là, tout à coup, la question des langues est annulée en Christ. Les différences sont là, présentes. Nous sommes tous différents, mais en même temps, tous différents les uns avec les autres. Certains disent que le mot « peuple » en hébreu vient du mot « im » qui est « avec ». Une dérivation du mot « avec ». Être un peuple, c'est des gens qui sont avec les uns les autres. Et je lisais pour l'équipe pastorale en réunion de travail vendredi soir cette lecture de Néhémie où il y a un descriptif, le chapitre 3 me semble-t-il, et je leur disais c'est certainement le chapitre que vous n'avez pas lu. Hein? Je nous fais confiance. Où là, dans le chapitre, pendant un chapitre, il y a un tel travailla à côté d'un tel, qui travaillait 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 à côté d'un tel. Et on fait tout le tour des murailles de Jérusalem pour avoir le nom de tous ceux qui travaillent à côté de l'autre. À côté, c'est le mot qui revient sans cesse. Nous sommes les uns les autres, à côté les uns des autres. Moi, je suis content d'être à côté de vous. Est-ce que vous êtes content d'être avec moi? Ça, je ne veux pas vous demander de réponse tout de suite. Mais nous sommes dans nos diversités à côté les uns des autres. Il est dit qu'à un moment donné, il y avait un orfèvre qui était en train de travailler à la muraille. Il était à côté d'un parfumeur. Qu'est-ce que ça vient faire un parfumeur pour rétablir une muraille? Et parfois dans l'église, on se dit ça. Ah non, non, attendez. Une telle, c'est une parfumeuse. J'allais dire une coiffeuse. Qu'est-ce qu'elle va faire à réparer les murailles de l'église? Amen. Il y a de la place pour les coiffeuses. Il y a de la place pour les retraités. Il y a de la place pour les profs. Il y a de la place pour tous ceux tels qu'ils sont avec leurs différences. Ils étaient côte à côte et ils construisaient la muraille. Est-ce que nous pouvons, nous aussi, non pas construire une ville en côte, à côté ou une tour pour faire semblant d'être comme Dieu, mais de rentrer dans ses plans et de construire et de bâtir ensemble, côte à côte. Et la Pentecôte étant ce signe que tout ce qui pouvait nous séparer spirituellement nous rassemble avec nos diversités, notre regard, notre richesse, mais côte à côte. Merci Seigneur, parce que ta parole aujourd'hui encore retentit dans nos cœurs, dans nos esprits, que ton Saint-Esprit est là pour nous parler de ce que nous sommes, de ce que nous vivons, de ce que nous faisons, des choix que nous posons face à ces hommes qui construisent et bâtissent une ville, une tour, et qui ont décidé de se faire un nom en dehors de toi. Seigneur, donne-nous de faire le choix de ta personne, de ta pensée. Donne-nous de nous regarder les uns les autres comme des ouvriers riches de leurs différences. Donne-nous de laisser ton Esprit Saint construire en nous notre identité avec toi. Ne pas être là avec des « oui, mais » c'est pas possible, peut-être plus tard, mais de laisser véritablement ton Esprit Saint nous parler maintenant, parce que c'est maintenant qu'est jour de salut pour chacun d'entre nous. Alléluia, je me réjouis. C'est aujourd'hui jour de salut, Seigneur. Accomplis ton œuvre dans chacune de nos vies. Amen.